Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h à Melbourne, 5h du matin à Paris. Nous sommes le jeudi 16 juin 2022. Je m'appelle Marianne Murat. Nous allons passer une heure ensemble, une heure d'actualité, de sport. Comme chaque jeudi, on va également parler économie puis culture. On commence d'abord avec le journal. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 16 juin 2022. Le gouvernement australien confiant face aux coupures d'électricité à répétition, pourtant en pleine crise de l'énergie. Un pas de plus dans la lutte contre le réchauffement climatique, Anthony Albanese s'y engage auprès de l'ONU. Un changement de taille pour les enfants et les parents puisque deux États australiens ont annoncé une refondation de la scolarité. Les États-Unis rehaussent une fois encore les taux directeurs pour freiner l'inflation. On verra en quoi ça n'est pas forcément efficace. Et enfin, le Grand Prix d'Australie qui restera bel et bien à Melbourne jusqu'en 2035, on en parle dans le Journal des Sports. On ouvre ce journal avec la crise énergétique qui frappe l'Australie ces derniers temps. Des coupures d'électricité sont à craindre encore ce soir, notamment en Nouvelle-Galles du Sud. En cause, une combinaison de plusieurs éléments. Les températures hivernales relativement froides cette année, un grand nombre de centrales électriques en maintenance et des périodes de faible production d'énergie solaire. Pour le gouvernement, cela montre la nécessité d'investir dans de nouvelles énergies et notamment dans les énergies renouvelables.
At its heart, this is a problem caused by coal-fired power station closures and outages, which were some of them it's expected maintenance, some of which delayed maintenance from COVID, and some of it is just old equipment which is failing more and more. We need the new investment. We've been able to avoid blackouts. I'm confident we can continue to do that, subject to any sort of unexpected big closures.
Chris Bowell, le ministre fédéral de l'énergie. On le disait en titre, un pas de plus de la part de l'Australie dans la lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre d'une convention des Nations Unies. Anthony Albanese vient de confirmer sa volonté de réduire de 43% les émissions carbone d'ici à 2030, conformément à ce qu'il avait promis lors de sa campagne électorale. On écoute le Premier ministre.
What business has been crying out for is investment certainty. The certainty that they need to invest over a longer time frame than the political cycle of 3 years, let alone the cycle that dominated the former government's thinking, the 24-hour media cycle.
Et à noter que la prochaine grande réunion de l'ONU sur le changement climatique doit se tenir en Égypte dans quelques mois. On en vient à cette annonce du Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud. Les deux États veulent introduire une année supplémentaire d'apprentissage par le jeu avant de commencer l'école. Dans une déclaration conjointe, les deux ministres Dominique Perrottet et Daniel Andrews affirment qu'il s'agira de la plus grande transformation à long terme et que cette décision ne peut avoir que des retombées positives. On écoute le premier du New South Wales.
We know that early childhood education works. For many years, preschools right across our state have provided our children great opportunities to set them up for school success. And during that period of time, what we've learned is that starting at preschool makes a real difference to children's educational outcomes and social outcomes.
Dominique Perrottet, un premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud. On prend la direction des États-Unis à présent. Pour lutter contre l'inflation, eh bien la Fed, la Banque centrale américaine, a relevé ses taux directeurs de 0,75 points. Pour la troisième fois d'affilée, les précédentes hausses n'avaient pas permis de freiner la flambée des prix. La Fed, qui ne met pas de côté d'ailleurs une nouvelle hausse des taux si celle-ci ne fonctionne pas suffisamment. À Washington, la correspondance de Guillaume Nodin pour Radio France Internationale.
Un quart de point en mars, un demi-point en mai, trois quarts de point en juin, la Réserve fédérale appuie de plus en plus fort sur la pédale de frein. La Banque centrale américaine n'avait pas augmenté ses taux de 0,75% depuis 24 ans. Il faut dire qu'elle est confrontée à une inflation qui reste au plus haut depuis 40 ans. Le chiffre publié vendredi dernier, 8,6% de hausse sur un an en mai, marque une réaccélération par rapport au mois précédent. Loin, très loin des 2% annuels qui restent l'objectif officiel. La solution, c'est de rendre plus cher le prix de l'argent et des emprunts pour faire baisser la demande. Et l'institution présidée par Jerome Powell est prête à appuyer encore plusieurs fois sur le frein dans des proportions similaires d'ici à la fin de l'année. L'enjeu désormais, c'est de savoir doser ce freinage pour éviter que l'économie s'arrête complètement. Après la contraction du PIB au premier trimestre, la Fed ne voit pas de récession s'installer au deuxième. Cela ne l'empêche pas de revoir ses prévisions de croissance à la baisse pour cette année et la suivante, et de prévoir aussi une légère remontée du chômage d'ici à la fin de l'année. Autrement dit, les membres du comité de politique monétaire savent qu'ils marchent sur un fil, mais parmi toutes leurs missions, leur priorité est claire, maîtriser l'inflation.
Et on posait la question en titre, hein, est-ce que cette décision va être efficace ? Eh bien, pas spécialement, puisque l'inflation risque tout de même de perdurer. C'est en tout cas ce qu'explique Pierre Scheffler, il est financier, conseiller en investissement auprès du groupe La Française. On écoute son analyse.
C'est un mouvement qui, bien sûr, est déjà dans les cours des actions, puisque ça avait déjà été anticipé. Il était déjà dans les cours, mais ceci étant dit, c'est pas la fin. Ça va continuer. Les marchés comprennent qu'il faut combattre l'inflation et que combattre l'inflation en étant douloureux à court terme est nécessaire plutôt que de souffrir pendant longtemps. Donc ça, c'est le côté positif de la hausse des Fed Funds. En revanche, il y a un côté négatif tout de même, c'est que beaucoup d'opérations d'investisseurs sur les marchés étaient faites à crédit et que ces investisseurs qui, eux, se sont endettés pour investir, se trouvent aujourd'hui pris à la gorge et doivent revendre leur position. C'est les prochaines étapes qui vont être vraiment importantes parce que juguler l'inflation sans casser la croissance, ça va être très difficile. Il faut que le taux directeur de la Federal Reserve passe au-dessus de 3% pour avoir une chance de juguler l'inflation. Donc c'est un choc extrêmement violent.
La 16e semaine de guerre en Ukraine et le Donbass qui tombe chaque jour un peu plus aux mains des soldats russes. Washington a annoncé 1 milliard d'aides militaires supplémentaires tout en appelant ses alliés à intensifier les livraisons d'armes à Kiev. L'Ukraine est confrontée à un moment charnière sur le champ de bataille, c'est ce qu'a déclaré le secrétaire américain à la Défense lors d'une réunion au siège de l'OTAN à Bruxelles. Une réunion en prévision du prochain sommet prévu à Madrid dans 2 semaines. Pierre Benazé, RFI.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, estime que l'Ukraine doit recevoir et va recevoir plus d'armes lourdes et d'armements de longue portée de la part des pays alliés. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, est convié à cette réunion, alors que Kiev estime avoir reçu 10% des armements demandés. Les livraisons sont en cours, selon le secrétaire général de l'OTAN, mais la formation de l'armée ukrainienne, le soutien et la maintenance des systèmes d'armes prennent du temps. Jens Stoltenberg.
When we now are delivering more long range.
Nous livrons maintenant des systèmes de défense aérienne plus avancés et à plus longue portée, une artillerie et des armes plus lourdes, plus modernes aux armes de l'OTAN. Nous commençons en fait la transition des armes de l'ère soviétique aux armes plus modernes de l'OTAN. Il faudra aussi un certain temps pour que les Ukrainiens soient prêts à utiliser, à faire fonctionner ces systèmes.
Le ministre de la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, préside à l'OTAN une réunion des 50 pays du groupe de contact pour l'Ukraine afin de faire le point sur ses livraisons d'armes et selon Lloyd Austin, l'OTAN et ses alliés doivent intensifier leur engagement commun pour l'autodéfense de l'Ukraine.
Et c'est dans ce contexte d'invasion russe en Ukraine que la Turquie a réitéré son refus de voir la Suède devenir membre de l'OTAN. Selon le président Recep Tayyip Erdogan, le pays ne remplit pas les critères de sélection, accusant notamment Stockholm de soutenir des militants kurdes et de refuser de livrer des armes à Ankara. On écoute le premier ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Çavuşoğlu.
NATO'dan da aynı şekilde ortak bir uzlaşı belgesi geldi.
We received a joint document from NATO. Also, we received a document from the Swedish Prime Minister's advisor. We had told NATO and other countries that those documents fall way short of meeting our expectations. Now we are going to wrap all those documents and send them our response. We had told the General Secretary of NATO for there to be a base for negotiations, it has to be with the document that we had sent them.
Dün de bugün de genel sekretere de söyledik.
Et on le rappelle, pour intégrer l'OTAN, il faut que tous les membres soient d'accord à l'unanimité donc. Politique française à présent et dernière ligne droite avant le second tour des élections législatives, c'est ce dimanche. La première ministre fait campagne dans le Calvados où elle est arrivée en tête dimanche dernier. Mais cet entre-deux-tours est assez compliqué pour Elisabeth Borne. D'un côté, la poussée de la gauche. D'un autre côté, les accusations d'agression sexuelle à l'encontre du ministre Damien Abad. Reportage de Julien Chavanne pour Radio France Internationale.
Tout le monde s'est un peu remis à la couture aussi.
La visite des commerces donnés sur Odon ronronnait gentiment jusqu'à la dernière étape à la librairie papeterie du village.
A priori, vous n'appelez pas systématiquement à voter pour la NUPES et à contrer le Front National. Ça me chagrine un petit peu parce que...
En fait, la chef du gouvernement et chef de la majorité tente alors de rassurer cette habitante déroutée par le Front Républicain version Emmanuel Macron.
Il y a ces zéro voix pour le Front National, mais il y a des moments, il y a quand même des sujets comme les armées, les policiers, on a l'impression que pour eux, c'est les policiers qui sont dans leur tort, là, on peut pas.
7 minutes de voiture plus tard, Elisabeth Borne est sur le marché de Villers-Bocage. Une jeune femme l'attend de pied ferme pour l'interpeller sur Damien Abad, le ministre visé par une nouvelle accusation d'agression sexuelle.
Ça vous dérange pas de travailler avec des ministres qui sont accusés d'agression sexuelle, en tant que femme ?
Bien sûr que je suis très vigilante à ça.
Échange tendu, échange stérile, pressé de questions par les journalistes, visiblement gênés, Elisabeth Borne ne désavoue pas son ministre, mais elle appelle les femmes victimes à porter plainte.
Je ne suis pas juge. Les enquêtes, c'est la justice qui les fait.
Une candidate et première ministre sur la défensive, obligée de serrer les dents jusqu'à dimanche.
Le point météo de cet après-midi, et comme d'habitude, on commence par Perth, il fait nuageux, 22 degrés. Adélaïde, il y a des averses, 17 degrés. Des averses également à Melbourne, 15 degrés. À Hobart, en Tasmanie, il y a des éclaircies. Cet après-midi, comptez 14 degrés. Averses à Canberra, 12 degrés. Du soleil, enfin, à Sydney, comptez 20 degrés. Soleil également à Brisbane, 24 degrés. Il fait nuageux à Cairns, 29 degrés. Et Darwin, grand soleil, 33 degrés. Le rappel des titres. Le gouvernement demande aux habitants de Nouvelle-Galles du Sud de limiter leur consommation d'énergie pour éviter des coupures d'électricité. Anthony Albanese s'engage auprès de l'ONU à diminuer de 43% les émissions carbone de l'Australie. La Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria veulent ajouter une année d'apprentissage par le jeu avant que les enfants rentrent à l'école. Et enfin, les États-Unis qui rehaussent une fois encore les taux directeurs pour freiner l'inflation.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal des sports. Le journal des sports de ce jeudi 16 juin 2022, et on vient de l'apprendre, le Grand Prix d'Australie restera bel et bien à Melbourne jusqu'en 2035 au moins. Le gouvernement du Victoria a obtenu une prolongation de 10 ans, à savoir que l'événement sportif a lieu dans la ville de Melbourne depuis 1996. Une bonne nouvelle dont se félicite le ministre des sports du Victoria, Martin Pakula.
We have driven a hard bargain in the face of extraordinary competitiveness. And we are absolutely 100% convinced, given the massive increase in global interest of Formula One.
Et selon une étude du cabinet Ernst & Young, eh bien le Grand Prix 2022 a généré 92 millions de dollars de dépenses directes dans l'économie du Victoria et a augmenté son produit brut de 171 millions de dollars. Le retour des héros maintenant à l'aéroport de Sydney. Les Socceroos sont de retour en Australie après leur qualification pour la Coupe du Monde de football. Les Socceroos qui, on le rappelle, ont battu le Pérou au tir au but et ont donc décroché leur ticket pour le Qatar. Ce sera leur 5e Coupe du Monde consécutive. Une victoire de taille pour l'attaquant Aver Mebil. C'est lui qui a marqué le dernier penalty, lui qui est d'origine sud-soudanaise et a vécu dans un camp de réfugiés avec sa famille au Kenya jusqu'à son arrivée en Australie en 2006. Il affirme avoir enfin eu le sentiment de rembourser son pays d'adoption. On l'écoute.
Well, I feel relief because you know I can finally say thank you to Australia in the best way possible on behalf of my family. So I feel relief now I can get that off my shoulder and you know kick on and do great things for my country.
Averme Bilin, donc attaquant des Souquerous, qualifié pour la Coupe du Monde de football au Qatar à la fin de l'année. Le reste de l'actualité sportive vous est présenté par les journalistes de RFI.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, le football pour commencer, la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux qui fait réagir les anciennes gloires du club, 6 fois champion de France.
Bordeaux relégué sportivement en Ligue 2 à l'issue de cette saison, puis en National suite à l'examen des finances du club par la DNCG, le gendarme financier du football français. Un monument en péril, une catastrophe tout simplement pour l'ancien buteur en maison Lilian Lasland, joint par nos confrères de Radio France.
C'est une catastrophe pour un club comme les Girondins de Bordeaux dans la région. Ok, peut-être que la Ligue 2 aurait permis d'épurer certaines choses au jour d'aujourd'hui, mais il va falloir aller encore plus bas. Peut-être une solution va pouvoir être trouvée, mais si je pense que la DNCG a dit à M. Lopez que son plan ne fonctionnait pas, c'est une catastrophe pour le monument qui est le club des Girondins de Bordeaux. Nous, les anciens, si on fait appel à nous, on sera là, que ce soit pour la partie jeune, pour la partie plus professionnelle, entre guillemets. On fera tout pour que ce club remonte le plus vite possible à sa place.
Lilian Lasland, l'ancien attaquant perroquet des Girondins, natifs de Bordeaux et vainqueur du championnat de France 1999 avec le club de sa ville.
Allez, le football avec ses coulisses financières, toujours juridico-financières même. Le parquet suisse a requis aujourd'hui 1 an et 8 mois de prison avec sursis à l'encontre de Sepp Blatter et de Michel Platini.
Respectivement ex-président de la FIFA et de l'UEFA, les deux hommes sont accusés d'avoir escroqué l'instance fêtière du football mondial via un paiement injustifié en faveur du français. Olivier Pron.
Sepp Blatter et Michel Platini encouraient jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Ils devraient, s'ils sont bien condamnés, écoper d'une peine nettement moins lourde de la part du tribunal suisse de Bellinzone. Implacable sur la tromperie prêtée aux accusés, le procureur Thomas Hillebrand s'est abstenu de réclamer une peine ferme pour les deux anciens dirigeants qui seront fixés sur leur sort le 8 juillet. 5 heures durant, il s'est efforcé de démêler l'affaire qui a brisé en 2015 la carrière des ex-alliés au moment où Platini, alors président de l'UEFA, paraissait idéalement placé pour succéder à Blatter à la tête de la FIFA. Seul compte leur comportement au regard du droit pénal, a d'emblée rappelé le procureur, évacuant toute dimension politique pour se concentrer sur les près de 2 millions d'euros accordés en 2011 par la FIFA à Michel Platini, avec l'aval de Sepp Blatter, et ce en vertu d'un accord oral passé entre les deux hommes pour conseil donné par le français aux Suisses. Peu importe donc que ce dossier n'ait ressurgi qu'en 2015 et propulsé à la tête du football mondial l'inattendu Gianni Infantino, bras droit de Michel Platini à l'UEFA, est visé depuis 2020 par une procédure distincte pour 3 rencontres secrètes avec le parquet suisse. Place à présent et jusqu'au 22 juin aux plaidoiries de la FIFA, partie civile, puis de la défense.
Olivier Pron, le tennis à présent et dans un peu moins de 2 semaines, c'est Wimbledon. Thomas, et les joueurs s'acclimatent aux jeux sur gazon?
Avec par exemple le tournoi de Halle en Allemagne, le français Hugo Humbert, tenant du titre, sort dès le deuxième tour cette année, battu par le polonais Hubert Hurkacz. Élimination également du grec Stefanos Tsitsipas, écarté par l'Australien Nick Kyrgios. Daniil Medvedev, le russe numéro 1 mondial, c'est lui débarrassé du belge David Goffin dans un match comptant pour le premier tour.
Allez, on termine avec le cyclisme parce que là, c'est le Tour de France qu'on prépare.
Et certains des acteurs attendus de la grande boucle au mois de juillet sont sur les routes du Tour de Suisse. La 4e étape a été remportée aujourd'hui au sprint par le Sud-Africain Daryl Impey. Le Britannique Stephen Williams reste leader du général.
Un peu de mélancolie heureuse, comme la quiétude d'une caresse, comme une tonasie joyeuse, bien l'opposé de la détresse.
C'était un peu de mélancolie heureuse chantée par Team Dup, cette chanson que nous avons sélectionnée dans notre playlist du mois de juin. Comme chaque jeudi, c'est l'heure à présent de la chronique économie. On marque une très courte page de publicité.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Et une hausse du salaire minimum a été annoncée par la Fair Work Commission.
Oui, tout à fait. Une décision très attendue, très importante là. Donc le salaire minimum va monter par 1,05$ chaque heure à partir du 1er juillet. Donc ça va dire, ça va monter de la base de 20,33$ chaque heure, toutes les heures. C'est l'équivalent d'une hausse de 5,2%, ce qui est un peu plus que le taux d'inflation qui est à 5,1%. Ça veut dire que le salaire minimum chaque semaine sera maintenant $812.60. Et par contre, c'est moins bien pour les travailleurs sur des award rates, c'est-à-dire des niveaux de paye qui sont décidés par l'arbitre industriel, le Fair Work Commission, entre les travailleurs et les employés. Pour eux, leur paye va monter par 4,6%, ce qui est l'équivalent de $40 chaque semaine. Mais selon la Fair Work Commission, cette décision, en fait, ça aurait été... il y aura des conséquences pour au moins 2,7 millions de travailleurs autour de l'Australie. Donc, c'est une énorme décision. Et le Premier ministre Anthony Albanese, lui, il avait fait appel justement pour que le salaire minimum monte par au moins le taux d'inflation, 5,1%. Et c'était vraiment devenu une question centrale pendant les élections avec l'ancien Premier ministre Scott Morrison qui luttait, lui, contre ça. Mais la Fair Work Commission a dit qu'en fait, il ne pouvait pas ignorer le fait que les prix montaient beaucoup en ce moment et qu'il y avait de plus en plus de pression sur les gens moins bien payés en particulier. Donc le président de la commission, Ian Ross, il a dit qu'en fait, il pense que le marché du travail est assez solide en ce moment et qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur l'économie australienne. Mais bon, en même temps, la Banque centrale s'attend à voir le taux d'inflation atteindre 7% avant Noël, donc beaucoup, beaucoup plus. Et aussi, il y aura encore des hausses du taux d'intérêt. Donc, cette pression sur les domiciles, sur les gens, va continuer malheureusement. Et c'est un vrai problème économique pour le nouveau gouvernement de M. Albanese.
Et puis, le coût de la vie monte partout. Et c'est encore plus difficile dans les régions rurales et les endroits isolés du pays où les prix de la nourriture sont devenus très chers.
Ah oui, tout à fait. Ça a toujours été un peu comme ça parce que, bon, il faut transporter les légumes, les fruits, etc., des longues distances. Mais là, on voit que les prix pour les fruits et les légumes sont devenus tellement chers qu'en fait, c'est devenu presque un luxe dans certains endroits et c'est difficile de les acheter, de maintenir, de manger de la nourriture de bonne santé. Les grands supermarchés, donc eux, ils peuvent mettre les prix qu'ils veulent et aussi il y a des énormes frais de transport. Donc ça peut coûter trois fois plus cher dans la campagne que dans les villes pour des fruits et des légumes. On a vu des laitues à Darwin, par exemple, à $11. En Nouvelle-Galles du Sud, dans la campagne, ça peut coûter $36 pour un kilo d'haricots. C'est $11 à Sydney. Donc, ça peut vraiment devenir hors de prix dans des petites villes tout autour de l'Australie, qui est un énorme pays avec des régions vraiment très, très isolées. En plus, bien sûr, on sait que l'essence est très, très chère en ce moment. Donc, ça coûte de plus en plus cher de conduire. Si, par exemple, on habite dans une petite ville et on veut aller dans la plus grande ville régionale, un centre régional à une ou deux ou trois heures de route, bon, ça coûte tellement cher maintenant de conduire que ça vaut vraiment pas le coup. Et puis, on a vu que depuis le début de l'année, le prix des fruits et des légumes sont montés par 6,7%, donc même plus que le taux d'inflation, qui est à 5,2%, comme on vient de dire avant. Et donc, c'est-à-dire que les gens sont obligés de dépenser de plus en plus de leur salaire pour juste acheter de la nourriture, et encore plus s'ils veulent acheter des fruits et des légumes frais, et donc avoir une bonne santé. Et comme toujours, dans les communautés aborigènes, ça coûte encore plus cher. Ça a toujours coûté très cher parce que c'est des toutes petites communautés, souvent. Donc, ça coûte plus cher pour amener cette nourriture-là. Donc, depuis très longtemps, on a vu des prix très, très hauts dans les petites communautés isolées dans des régions du nord de l'Australie en particulier. Mais là, c'est vraiment encore plus cher. Donc, c'est pas facile en ce moment.
Merci Nicolas pour cette analyse de l'économie australienne. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'était Libre de la chanteuse belge Angèle, une chanson toujours dans notre sélection du mois de juin. Tout de suite sur SBS French, Raphaël Delaunay, la directrice de l'Alliance française d'Adélaïde, fait le point sur les événements culturels à venir et notamment la fête de la musique. C'est mardi prochain, mardi 21 juin.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir de retrouver à nouveau sur les ondes de SBS French, Raphaël Delaunay, qui est la directrice de l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour et bienvenue à nouveau, Raphaël.
Bonjour Jean-Noël et bonjour à tous vos auditeurs.
Et on enchaîne avec la fête de la musique, c'est chez vous, célébrée le vendredi 17 juin.
C'est ça, la semaine d'après, c'est International Day of Music. Forcément, qui pour nous, nous tient particulièrement à cœur à Adélaïde, puisque Adélaïde est UNESCO City of Music, qui est vraiment inscrite dans ce patrimoine culturel musical. Pour mémoire ou information, il y a deux autres villes qui appartiennent à ces programmes UNESCO en Australie. Il y a Sydney pour la partie cinéma et il y a Melbourne pour la partie littérature. Adélaïde s'inscrit du coup dans le paysage musical. Donc forcément, la fête de la musique a une résonance toute particulière ici. On projette d'avoir une célébration à la mairie de Hunley, donc le vendredi 17 juin de 19h à 22h, avec deux groupes d'artistes qui vont faire différentes performances au cours de la soirée. Un groupe franco-australien qui s'appelle Pamplemousse et un deuxième groupe qui s'appelle Gosling Trio, qui est d'origine brésilienne et qui nous jouera de la bossa nova et des classiques brésiliens. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir cette ouverture sur plusieurs influences musicales et surtout pas juste la musique française. C'est vraiment le principe de la fête de la musique, c'est de célébrer toutes les musiques. Voilà, donc on espère vous y voir très nombreux ce soir-là. Il y aura une buvette assurée par Cyrano Wines. Donc ça sera vraiment, voilà, on espère festif et un bon moment à partager ensemble autour de la musique.
Donc ce sera une mini-version Wom Adélaïde avec une touche de l'Alliance française d'Adélaïde.
C'est ça, très très mini.
On enchaîne avec les activités régulières que vous proposez à l'Alliance française d'Adélaïde. Je pense au book club, au ciné club, atelier dégustation, et déjeuner conversation.
Alors, le déjeuner conversation, comme tous les mercredis depuis des années, nous accueillons le déjeuner conversation autour de Léonie, qui est étudiante également à l'Alliance, et quelques bénévoles francophones. Principe, venir partager l'amour de la langue française, s'essayer, pratiquer, parler de tous les sujets qui peuvent vous intéresser, les vacances, l'actualité, mais c'est vraiment s'entraîner, pratiquer en dehors de la classe. C'est gratuit pour nos membres, vraiment je vous invite à venir y rencontrer cette équipe qui est super. On va également avoir l'atelier dégustation autour des vins et fromages de montagne. L'hiver arrive, on avait envie d'une thématique chaleureuse. Ça se passera le vendredi 1er juillet et c'est déjà assez plein. Donc, il ne reste que quelques places. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à réserver vraiment très rapidement. On a évidemment le club de lecture. Et il y a 2 semaines, on a pu inaugurer officiellement notre nouvelle section Nouvelle-Calédonie au sein de la bibliothèque. Et dans les prochains jours, si ce n'est prochaines heures, nous avons nos dernières nouveautés littéraires qui rentrent dans la bibliothèque avec les derniers grands prix littéraires, avec des livres qui ont été adaptés au cinéma et projetés dans le cadre du Festival du film français, dont vous allez pouvoir découvrir le texte d'origine. Et c'est toujours intéressant ce passage de l'écriture à l'écran. Vous allez également pouvoir découvrir pour les adultes des livres qui sont adaptés à votre niveau. Je pense notamment à des plus petits niveaux, A1, A2, B1, et puis plein de nouveautés pour les enfants. Donc c'est vraiment, vraiment le moment de venir choisir des livres, notamment l'hiver arrive, pour être bien cocon, dans un fauteuil avec un chouette livre pour rester en contact avec la langue française et continuer à découvrir la culture.
Un petit mot peut-être sur les cours. J'imagine que le term 2 va prendre fin bientôt.
C'est assez fou, comme avec l'équipe, on se dit comme ça va vite, on a l'impression que ça vient tout juste de démarrer. Et on se prépare déjà à la mise en place des cours pour le trimestre 3, avec ce jeu et ce grand plaisir de voir certains étudiants qui commencent à voyager, enfin, recommencent à voyager après 2 ans. Et c'est vrai que ça fait très plaisir. On va commencer à les voir revenir de voyage, revenir de ces contextes un peu plus immersifs de pratique de la langue. Et on sera extrêmement ravis de retrouver tout le monde à l'Alliance pour échanger sur ces expériences et continuer à apprendre dans la bonne humeur.
Autre message que vous aimeriez lancer, Raphaël ?
Profitez de l'hiver, sortez. Il y a plein de super choses à découvrir à Adélaïde, plein de choses qui sont en préparation, que je ne peux pas encore vous dire, mais sur des, notamment qui vont concerner les nouveaux festivals d'hiver qui se déroulent à Adélaïde, et je pense en particulier à Illuminate. Voilà, préparez-vous à sortir, ayez vos bonnets, vos écharpes et allez à la découverte d'Adélaïde et de la région cet hiver.
Donc on va prendre rendez-vous début du mois de juillet pour en parler.
Avec grand plaisir.
Merci Raphaël et à très bientôt sur SBS French.
Merci Jean-Noël, à très bientôt et bonne journée à tous vos auditeurs.
Votre communauté, vos conversations, SBS French.
Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu. La prochaine fois tu prendras le bus.
Peut-être avez-vous reconnu sa voix emblématique, c'était Grand Corps Malade avec sa chanson Voyage en train. On reste dans le thème de la culture, on vous le disait en sommaire, avec la sortie d'un nouveau livre. Restez sur SBS French.
Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Nous sommes ce soir au Sofitel dans le centre-ville de Melbourne en présence de Jean-François Vernet. Jean-François, bonjour.
Bonsoir Marianne, bonsoir chers auditeurs.
Nous sommes ici parce que ce soir vous faites la promotion de votre dernier ouvrage qui s'appelle Forteresse insulaire, paru au mois d'avril aux éditions Sans Escale. C'est un recueil de fiction avec à l'intérieur une double fiction. Et si on lit le livre, on voit que ce sont deux histoires qui ne semblent pas liées en apparence. Et pourtant, au fil de la lecture, on se rend compte qu'elles sont totalement imbriquées. Est-ce que c'est bon ?
C'est parfaitement résumé, merci.
Expliquez-nous un petit peu justement quel est ce livre et ce dernier ouvrage.
Il s'agit de créer une fiction cannibale. Alors cannibale à entendre au sens métaphorique peut-être, dans un premier temps, et peut-être au sens littéral, qui sait. Je ne vais pas gâcher le suspense des auditeurs, des auditrices. L'idée a été de parler d'appropriation et d'incorporation, deux concepts qui me semblent importants pour les sociétés postcoloniales, parce que ce sont deux faces qui sont à la fois utile. On a besoin d'incorporer pour s'approprier du savoir, par exemple. Mais aussi, il y a une face un peu plus négative, un peu plus délictueuse, peut-être, si on pense aux plagiaires qui s'approprient le travail d'autrui. Ces fictions reposent aussi sur la culture psychanalytique et il y a eu dans cet espace énormément d'histoires de plagiat. Donc je me suis un peu amusé à manipuler ces concepts.
Vous, Jean-François, vous êtes auteur, chercheur, journaliste, écrivain, universitaire, autant de titres qui, j'imagine, vous donnent beaucoup matière à réfléchir. Comment vous est venue l'inspiration pour cet ouvrage ?
Les deux histoires donc, reposent sur ce qu'on appellerait un hypotexte, donc un texte antérieur. Et celui qui se prenait à rêver repose sur Le Petit Prince. C'est une adaptation postcoloniale du Petit Prince de Saint-Exupéry, un ouvrage que je relis avec plaisir tous les 10 ans, qui me donne une autre lecture d'ailleurs de cet apologue. Et le deuxième texte repose sur un autre texte fondateur que je ne sais pas si je devrais citer parce que je donnerai un peu l'intrigue et je pense que le lecteur s'en rendra compte peut-être dès les premières pages.
Vous dites de vous, il y a deux types d'écrivains, l'architecte et le jardinier. Lequel êtes-vous ?
C'est en fait Marianne Jaglé qui avait fait cette analogie lors d'un entretien que j'avais mené pour nonfiction.fr. Elle s'identifiait à l'écrivain jardinier parce qu'elle est là un peu à s'occuper de son pré carré et à voir ce qui pousse et dans quelle direction. Et moi, je suis plutôt en effet l'écrivain architecte parce que je prévois tout dans les moindres détails. Donc tout est pensé, le moindre mot est pesé, sous-pesé. Et je sais vers quoi je m'achemine quand je commence une fiction. Donc rien n'est laissé au hasard.
Vous, Jean-François, vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, vous y avez grandi, vous êtes rentré quelque temps vivre en France, vous avez rédigé une thèse sur la littérature australienne. En quoi ces îles, justement, l'Australie, ce continent-île, vous inspire au quotidien et dans tous vos travaux ?
Alors, je mène une réflexion de fond sur la littérature australienne que j'ai commencé avec la rédaction d'une thèse sur Christopher Koch. Ensuite, j'ai élargi un peu l'envergure de mes recherches avec ce panorama du roman australien des origines à nos jours qui a été publié aux éditions Herman, qui est une histoire littéraire du roman australien depuis le 19e siècle jusqu'au 21e siècle. Après, il m'a semblé intéressant de propulser un peu ce roman australien dans un champ un peu plus contemporain et voire novateur, donc les études littéraires cognitives qui reposent sur les recherches en neurosciences. Et là, j'essaye de voir quels sont les processus intellectuels et cognitifs donc, qui sous-tendent la création littéraire ou l'interprétation littéraire des romans australiens.
On imagine, comme tout le monde, que vous avez été impacté par ces deux ans et demi d'épidémie de Covid-19. Ça vous fait quoi, ce soir, d'être ici au Sofitel et d'organiser un événement pour faire la promotion de votre livre, entouré de professionnels du secteur, de futurs lecteurs. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir ?
Alors c'est en effet une joie de revenir un peu à la normale et d'être entouré du public en chair et en os. Donc il est important de revenir à de bonnes vieilles habitudes, à tisser du lien, à rencontrer les gens en étant évidemment raisonnable.
Et retisser du lien, c'est justement ce que vous faites ce soir en organisant cet événement et vous disiez que c'était une joie. Pour nous aussi, journalistes, c'est une joie de notamment réaliser cette interview en face à face. Ça fait peu de temps qu'on peut enfin ressortir du bureau et rencontrer les interviewés en personne. Donc on est très heureux aussi. Je vais faire un bond dans le futur. Je sais que vous n'en êtes qu'à la promotion de ce livre qui vient de sortir en avril. Pour autant, est-ce que vous avez déjà une vision pour l'avenir ? Est-ce que vous savez déjà sur quoi vous voulez travailler ensuite ?
Oui, j'ai un projet en tête qui va traiter encore peut-être du Pacifique insulaire. Il se trouve que la Nouvelle-Calédonie est un terreau fertile pour faire travailler son imagination parce que c'est une terre qui incarne pas mal de paradoxes. Il y a une forme assez relative d'harmonie depuis quelques années, puis il y a un multiculturalisme qui, à mon sens, est efficace et qui fait ses preuves, mais il y a aussi des sources de tension. Et l'histoire de la Nouvelle-Calédonie a été ponctuée de ces tensions. Donc il y a eu la grande révolte kanak de 1878, il y a eu la révolte kanak de 1917, il y a eu les événements de 1984. et ensuite la grotte d'Ouvéa et la prise d'otage sur lequel repose une de ces histoires de forteresse insulaire. Donc il y a matière à transformer le matériau historique et d'en faire des mythes littéraires.
Si vous faisiez une moyenne, ça vous prend combien de temps environ de sortir un ouvrage ?
Peut-être 2 ans, mais bon, je compte pas les traductions parce que j'ai eu la chance d'avoir été traduit en anglais, en arabe, en coréen. Là. Donc il y a ce mois-ci sort la traduction de Panorama du roman australien en coréen. La traduction de Plaidoyer pour un renouveau de l'émotion en littérature est sortie en arabe et sortie en début d'année. Elle va sortir en mandarin d'ici la fin de l'année ou sinon l'année prochaine. Ça me tient bien occupé et j'essaye de caser dans toutes ces parutions une fiction quand je peux. Donc voilà.
Une fiction pour le plaisir en somme.
Exactement, c'est vraiment une plage de loisirs pour moi que je prends très tard le soir quand tout le monde est couché et que j'ai une solitude royale.
Jean-François Vernet, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Quand Juliette Armanet rencontre Sébastien, ça donne le vertige. Vous venez d'écouter leur chanson Vertigo. Il est 13h et presque 54 minutes sur SBS French. C'est l'heure du rappel des titres. Le gouvernement demande aux habitants de Nouvelle-Galles du Sud de limiter leur consommation d'énergie pour éviter des coupures d'électricité en pleine crise de l'énergie qui frappe le pays. Anthony Albanese l'avait promis lors de sa campagne électorale, et bien il le fait. Le Premier ministre vient de s'engager auprès de l'ONU à diminuer de 43% les émissions carbone de l'Australie. La Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria veulent ajouter une nouvelle année d'apprentissage par le jeu avant que les enfants rentrent à l'école. Les États-Unis rehaussent une fois encore les taux directeurs pour freiner l'inflation. 3e hausse en quelques mois seulement. Et la Fed n'exclut pas déjà une 4e hausse. Et enfin, le Grand Prix d'Australie qui restera bel et bien à Melbourne jusqu'en 2035. L'État du Victoria vient d'obtenir une prolongation de 10 ans. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Il est 13h54. Je vous propose d'écouter maintenant cette chanson très célèbre de Starmania, la chanson Stone. Quant à nous, on se retrouve dès samedi pour votre prochain rendez-vous avec l'actualité. Ce sera ensemble, même fréquence, même heure, à 13h sur SBS French. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.